rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel, Victor Ouvrard.
Bonjour, bonsoir, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Le 23 juin, les Britanniques diront si oui ou non ils veulent rester dans l'Union Européenne. Le rendez-vous est historique pour le Royaume-Uni, bien sûr, mais également pour le reste de l'Europe. Au-delà de l'intérêt économique et sécuritaire de rester ou pas dans l'Union Européenne, l'interrogation profonde qui anime le débat est celle-ci. La Grande-Bretagne est-elle un pays européen? La question n'a jamais vraiment été tranchée par les sujets de Sa Majesté qui ont rejoint en 1973 l'Union Européenne par pur pragmatisme et sans grand enthousiasme. D'ailleurs, en un peu plus de 40 ans, les gouvernements britanniques successifs ont prouvé leur peu d'engouement envers l'Europe. Par exemple, la Grande-Bretagne n'est pas membre de l'euro et elle n'est pas membre non plus de la zone Schengen. Alors, que changerait finalement le maintien ou le retrait du Royaume-Uni au sein de l'Union Européenne? Bonjour Sophie Péder.
Bonjour Daniel.
Vous êtes la correspondante à Paris de The Economist, le journal de référence de la classe dirigeante, on peut dire ça?
On peut peut-être dire ça.
Et qui a pris parti pour le...
Le maintien, bien sûr, dans l'Union Européenne.
Très clair. On a peur d'un vide au cas où, évidemment, on aura l'occasion d'y revenir. Florence Fauché, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure de sciences politiques à Sciences Po Paris et vous êtes une grande connaisseuse du monde britannique. Yves Bertoncini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'Institut Jacques Delors. Il n'est plus besoin de le présenter, mais quand même.
Le think tank, comme son nom l'indique, fondé par Jacques Delors il y a maintenant près de 20 ans, alors peu après qu'il ait quitté la présidence de la Commission européenne.
Sophie Péder, pour essayer de comprendre ce peuple étrange qui nous fascine tant, nous les Français, il faut peut-être rappeler que les Britanniques habitent une île et que depuis 1066 et Guillaume le Conquérant, le pays n'a jamais été envahi, ce qui expliquerait partiellement, paraît-il, ce rapport ambigu que vous entretenez avec ce continent que vous appelez d'ailleurs l'Europe.
Oui, tout à fait. Quand on parle au Royaume-Uni de l'Europe, on parle comme si c'est quelque part ailleurs. On va en Europe, on quitte l'île pour aller en Europe. Et c'est très frappant parce que ça ne se dit pas du tout dans les pays continentaux, mais au Royaume-Uni, ça reflète, je pense, une espèce d'ambiguïté qu'ont les Britanniques depuis un moment pour leur maintenance, leur appartenance à l'Union européenne.
Florence Fauché, est-ce qu'on peut dire que le rapport des Britanniques à l'Europe relève de la psychanalyse?
C'est une question intéressante. Je pense qu'il est peut-être intéressant de distinguer les Britanniques et de décomposer le Royaume-Uni. Qui pourrait, s'il y avait Brexit, devenir un royaume désuni. Si on regarde l'état de l'opinion, les Celtes, les Écossais, les Gallois en particulier sont beaucoup plus, enfin, ne veulent pas quitter le Royaume-Uni. Et si l'Angleterre votait pour un départ, ils demanderaient certainement à rester.
Ça, bien sûr, mais ça ne répond pas à la question. Est-ce que le rapport, on va dire des Anglais, alors limitons les Britanniques aux Anglais, le rapport des Anglais donc à l'Europe relève de la psychanalyse?
Je dirais que c'est peut-être une relation de fratrie. Nous sommes trop similaires et pour nous entendre parfaitement, mais en même temps, on a du mal à se passer les uns des autres.
Mais alors, c'est quand même curieux pour ce pays qui a été ouvert sur le monde, qui a dominé les mers, qui a eu un empire phénoménal, d'avoir envie de se recroqueviller sur lui-même. Qui veut rebondir, Sophie Péder ou Florence Fauché?
Je pense que là, il y a un point d'histoire à faire. Et je pense que le fait que le Royaume-Uni, pendant la Deuxième Guerre mondiale, n'a jamais été envahi, a eu un effet profond sur la psychologie des Britanniques. On n'a jamais senti le besoin absolu qu'ont senti les Français et les Allemands après la guerre de faire l'Europe. Pour les Britanniques, ça n'a jamais été vraiment une nécessité absolue, une impérative. Et je pense que tout découle de là, cette relation un peu in-out, pas vraiment attachée, mais pas vraiment, toujours un peu tournée vers les États-Unis, les pays anglophones, les pays du Commonwealth. Et donc toujours un sentiment que l'Europe, c'est bien, oui, d'accord, c'est un marché.
Pourquoi pas?
C'est agréable de voyager, de travailler, de faire du commerce en Europe, mais c'est pas une nécessité politique absolue. Et ça, je pense, explique en grande partie cette ambiguïté qu'ont les Britanniques.
Mais le Royaume-Uni d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a 50 ans. Le Commonwealth, c'est quand même moins important qu'il y a 50 ans. Les échanges entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sont aujourd'hui évidemment beaucoup plus importants qu'avec les échanges avec le Commonwealth. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de prise de conscience des Britanniques que le monde a changé et le Royaume-Uni aussi, forcément.
On verra ça, parce que c'est exactement la question qui sera posée en réalité, pendant le référendum. On verra, peut-être vous avez raison. Mais je pense que culturellement, quelque part, les Britanniques se sont toujours plus proches des Américains, par exemple. C'est en partie à cause de la langue, mais c'est quelque chose qui... Je pense que le poids d'histoire, ça compte toujours, en réalité, malgré le monde aujourd'hui et les échanges qu'ont les Britanniques avec l'Europe.
Yves Bertoncini.
Oui, moi, je crois aussi beaucoup au poids de l'histoire et de la géographie. La géographie d'une île qui était le centre d'un empire et qui est toujours, d'une certaine manière, dans cette vision d'un empire, y compris financier d'ailleurs, et de relations à développer, y compris avec des pays émergents dans lesquels les perspectives de croissance sont plus intéressantes qu'en Europe. Un pays qui, vous l'avez dit, fait moins de commerce qu'il y a 50 ans avec le Commonwealth, mais qui reste quand même l'un des rares pays de l'Union européenne à faire structurellement seulement la moitié, et souvent même un petit peu moins de la moitié de son commerce avec les autres pays de l'Union européenne. C'est une spécificité. Et puis, les spécificités de l'histoire. En effet, l'histoire longue, l'histoire récente. Les Britanniques, quand ils regardent l'Union européenne, ne croient pas, et ils ont raison d'ailleurs, qu'elle leur a apporté la paix et la résistance aux nazis, puisqu'ils se sont défendus tout seuls. Ils ne croient pas qu'elle leur a apporté l'état de droit. Ils ne croient pas qu'elle leur a apporté l'économie de marché ou la démocratie. Ils ont raison de ne pas y croire, ce n'est pas le cas. Mais du coup, ça change absolument les données du problème par rapport à des pays comme le Portugal, par exemple, la Pologne, etc.
Ou la Grèce.
La Grèce, ça explique pourquoi, effectivement, il n'y a pas cette relation ontologique et pourquoi ça a été un mariage d'intérêts depuis le début. Et du coup, la question qui est posée aujourd'hui, en réalité, c'est de savoir si, du point de vue des intérêts, de l'intérêt national britannique, il y a toujours l'intérêt, justement, la nécessité de rester dans cette Union européenne. Ça n'a jamais été une histoire d'amour, l'histoire entre les Britanniques et l'Union européenne, ou alors vraiment une bad love affair, comme disent nos amis anglais. Aujourd'hui, simplement, je terminerai là-dessus, la question est aussi de savoir si les Britanniques vont se prononcer comme ce peuple commerçant qu'avait décrit Napoléon, c'est-à-dire sur la base de considérations pragmatique. Et à mon avis, si tel est le cas, ils seront enclins à rester dans l'Union européenne, ou si effectivement, c'est pas plutôt une question qui relève de la psychanalyse. Et oui, évidemment, ça relève aussi de la psychanalyse, mais enfin, ça relève de la psychanalyse en France, hein, la relation à Bruxelles, en Allemagne et un peu partout. Et si c'est cette dimension psychologique qui l'emporte, alors là, à mon avis, la porte est beaucoup plus largement ouverte pour une sortie.
Alors déjà, en tout cas, en 1946, Winston Churchill avait énoncé les choses très simplement. Les États-Unis d'Europe constituent le meilleur choix possible, à condition, bien sûr, que le Royaume-Uni n'en fasse pas partie, Florence Fauché.
Oui, la tentation d'une relation spéciale avec les États-Unis reste très, très pressante. Hein. On la retrouve de manière très régulière en Grande-Bretagne. Ce qui est frappant, et comme Obama l'a annoncé récemment, la relation spéciale, elle est spéciale surtout dans un sens, hein, dans le sens des Britanniques vers les États-Unis. Pour les États-Unis, la grande question, c'est l'Europe.
Ou l'Asie.
Mais je voudrais revenir juste pour prolonger le point qu'on a eu tout à l'heure sur l'histoire, qui est très, très important, me semble-t-il, mais qui a des traductions plus immédiates aussi dans le vote qui va avoir lieu dans un mois. Ça se traduit en termes de différentiel de participation électorale. L'électorat le plus âgé qui a le plus de chances d'aller voter est celui qui a connu la gloire de la Grande-Bretagne, puissance impériale et qui est victorieuse dans la Deuxième Guerre mondiale. Ceux qui sont pro-européens, ce sont les jeunes qui ont des intérêts économiques plus directs vis-à-vis de l'Union européenne, mais aussi des liens plus étroits et qui n'ont pas autant peur de ce continent. Donc les implications de ces différentiels de vote, qui va voter et où les gens vont voter, peut changer complètement le résultat compte tenu de du fait que les pour et les contre sont au coude à coude à l'heure actuelle.
Alors, en tout cas, le début de cette histoire, de ce référendum, le 23 juin prochain au Royaume-Uni, c'est une promesse de David Cameron à la branche la plus eurosceptique du Parti conservateur au moment des élections de l'an dernier. Pourquoi David Cameron s'est engagé dans ce qui apparaît quand même comme une forme d'impasse, Sophie Péder?
Oui, je pense que David Cameron, ça fait plusieurs années qu'au sein de son propre parti et en dehors de son parti, avec l'UKIP, qui est un parti nationaliste, il a subi une pression politique croissante et très forte. Et il espérait trancher cette question avec la promesse d'un référendum. Pour lui, c'était un grand pari, mais il s'est dit, une fois pour tous, on va régler cette question, et voilà, après, ça sera le calme dans mon parti.
Oui. Mais pas du tout.
Pour l'instant, ça divise le parti complètement. On s'est coupé en deux. Et il y a quelques ministres qui font campagne pour la sortie. Et l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, qui est très, qui a une carrière devant lui à faire, qui fait campagne contre.
Alors on peut dire même
et ça divise donc ça divise le parti. C'est pas du tout. Je pense, ça sera pas. La question sera pas tranchée par ce référendum.
On peut dire entre parenthèses, si on trace un parallèle avec la querelle des frondeurs du Parti socialiste, c'est une rigolade par rapport à cette fracture du gouvernement britannique sur une question tout de même essentielle, oui ou non, on appartient à l'Europe.
Oui, parce que vous imaginez, les frondeurs, pour l'instant, c'est pas les ministres dans le gouvernement, c'est des députés, oui, du Parti socialiste. Mais là, c'est carrément des ministres qui font campagne contre la position du Premier ministre, avec sa permission. Il a toujours dit, c'est ouvert, vous faites ce que vous voulez, mais c'est assez curieux comme situation.
Oui, et d'ailleurs, avant que David Cameron se prononce, on ne savait pas vraiment s'il était pro-européen ou anti. Il était tellement pour et tellement contre qu'on ne savait pas trop, quoi.
Et c'est toujours pas très clair, parce que là, il a fait, avant sa campagne, il a été très critique de l'Europe, et là, on trouve ce Premier ministre europhile converti. Donc, il y a un problème d'authenticité dans cette campagne, précisément pour cette raison-là.
Et ce serait évidemment la même chose sur le Parti travailliste de Jeremy Corbyn, mais on va y revenir. Alors, Yves Bertoncini, il y a eu des négociations avec les Européens. Est-ce que les Britanniques ont finalement obtenu ce qu'ils voulaient pour proposer ce référendum du 23 juin prochain?
Ils ont obtenu un texte. Je pense que David Cameron, qui effectivement a passé 3 ans à dire qu'il était ni pour ni contre, bien au contraire, l'Europe, avait besoin quand même de ce texte pour rentrer chez lui et dire que maintenant il est pour. Puisqu'il a obtenu des satisfactions sur 3 ou 4 points qu'on peut détailler rapidement. Je crois que dans tous les cas de figure, il serait malgré tout rentré chez lui en disant qu'il avait triomphé, que c'était Waterloo et qu'enfin il avait terrassé l'hydre bruxelloise, obtenu suffisamment de concessions. Et donc les points de l'accord, c'est sur la compétitivité. Il faut que l'Europe promeuve davantage la compétitivité, formidable.
Tout le monde est par définition pour.
Absolument. Le fait qu'il y ait des souverainetés, notamment des parlements qui soient davantage prises en considération, là aussi je crois que c'est à peu près consensuel. Il y avait dans son réquisitoire, si je puis dire, dans son cahier des charges, des éléments pour protéger la City, parce que la City de Londres n'a pas tellement aimé les régulations européennes qui ont suivi la crise financière, qui à mon avis était tout à fait nécessaire. Enfin, ça a suscité des réactions de rejet du côté de la City de Londres, également la façon dont la zone euro s'intègre en pouvant faire de l'ombre justement à l'économie britannique. Là, il a obtenu quelques garanties. Et puis, dernier point, et c'est celui-là où il a obtenu davantage, je crois, c'est la libre circulation des travailleurs. C'est-à-dire les travailleurs qui, effectivement, sont allés beaucoup plus nombreux au Royaume-Uni que dans d'autres pays.
Et notamment les travailleurs des pays d'Europe centrale et orientale,
travailleurs,
à commencer par les Polonais.
Notamment Polonais. Travailleurs, je le souligne donc, qui vont travailler au Royaume-Uni et qui touchent notamment des crédits d'impôt, parce qu'ils sont payés trop peu, comme d'ailleurs les Britanniques. Donc la façon dont ils pourraient accéder à ces crédits d'impôt et aux prestations sociales serait soumise à condition pendant quelques années. Et donc là, il y aurait une différenciation et même une discrimination entre Européens concédée aux Britanniques parce qu'il a été constaté par l'Union européenne qu'ils en ont accueilli un peu trop dans certains secteurs sur certains territoires. Bref, à mon avis, des éléments de compromis qu'il fallait bien faire, mais je crois, et je dis ça sous le contrôle notamment d'Anne-Sophie Péder, que ce texte n'aura quand même pas une incidence majeure sur la campagne, qui se joue davantage sur le contexte plus large de cette forme de malaise lié à l'appartenance britannique à l'Union européenne. C'est si vrai que c'est quand même le seul peuple qui avait fait un référendum 2 ans après son adhésion. Un référendum sur l'adhésion 2 ans après son adhésion, dans les années 70. C'était déjà très original. Là, nous avons eu droit à ce référendum annoncé pratiquement 4 ans à l'avance par David Cameron. Ça va se jouer sur le contexte, sur des considérations d'intérêt et puis sur des considérations beaucoup plus psychanalytiques.
En tout cas, la campagne est désormais bien lancée. Les partisans du Brexit, c'est-à-dire ceux qui veulent quitter l'Union européenne, sont les plus dynamiques. Il faut dire que David Cameron, comme on vient de l'évoquer, qui devrait être le leader naturel des partisans du maintien du Royaume-Uni dans l'Union, a bien du mal à mettre ses troupes en ordre de bataille. Maria Afonso s'est plongée dans l'univers des vidéos, des pros et des anti-Brexit.
In or out, telle est la question. Une question posée aussi par les vidéos postées sur les réseaux sociaux. Qu'elles soient in ou out, elles essaient de toucher les Britanniques au cœur. Chez les partisans du Brexit, la campagne est plus émotionnelle, alors que les in font appel à la raison et au portefeuille. Dans leur vidéo, on y voit une étudiante, une future mère de famille, plusieurs présidents de sociétés et dirigeants d'entreprises. Tous se mobilisent pour défendre le marché, l'économie ou la sécurité. Un extrait de leur spot, Britain Stronger in Europe, la Grande-Bretagne est plus forte en Europe.
J'aime aller avec un sac à dos en Europe. Les faibles coûts d'itinérance des mobiles me permettent de rester en contact avec ma famille à la maison.
Être une maman avec un autre bébé qui arrive me conforte dans l'idée que les congés de maternité et les vacances permettent aux familles de rester très unies.
Le crime n'a pas de frontières. On gardera nos citoyens dans nos pays et plus de sécurité en restant en Europe.
La Grande-Bretagne est face à un choix très important, un choix qui va nous affecter tous pour les années à venir. Optons ensemble pour une Grande-Bretagne plus forte en Europe.
Si les opposants au Brexit raisonnent d'un point de vue avant tout économique, les partisans de la sortie expliquent, eux, aux Britanniques qu'il est temps de s'interroger sur les bienfaits de l'Union européenne. Ainsi, Mandy Boylett, une adhérente du parti eurosceptique UKIP, propose sur YouTube un clip teinté des couleurs nationales en faveur du Brexit. Deux chanteuses, l'une blonde, l'autre brune, moulée dans un scintillant drapeau britannique, se trémoussent devant l'Union Jack qui monopolise tout l'écran. Elles vantent les avantages qu'aurait le Royaume-Uni à rentrer à la maison.
Florence Fauchet, quelle va être la part de la fierté british, du sentiment national dans le vote? Il va être essentiel, parce que là, on voit, quand on écoute ces deux clips, il y en a un qui est très pratique. Alors, c'est pratique d'aller prendre les vacances, c'est pratique qu'il y ait un petit peu de garantie sociale, c'est pratique parce que de toute façon, le crime... Et puis, de l'autre côté, on est tellement content, on est tellement fier d'être britannique. Quelle va être, à votre avis, la part de ce sentiment de fierté nationale dans le vote final et dans cette décision du 23 juin?
Je pense que c'est une question très compliquée, en fait. Parce que ça peut jouer des deux côtés. Ce qui est frappant, c'est de voir à quel point le Remain, en un sens, manque de leadership, en grande partie parce que, comme on l'a dit, Cameron est un leader qui mène finalement assez peu ses troupes. Il manque du charisme de son rival Boris Johnson, et il y a beaucoup de choses qui sont en jeu dans le fait que c'est peut-être plus facile de faire valoir le contre, de pouvoir s'appuyer sur une presse britannique qui est quand même très dominée par ceux qui veulent partir. Donc la fierté nationale, elle est là, mais elle peut être aussi là dans la place de la Grande-Bretagne en Europe. C'est qui est une carte que Tony Blair avait jouée quand il avait pris le gouvernement en 97. Donc durant le gouvernement du Parti travailliste, 97-2010, la carte de la nationalité, de la fierté d'être européenne, Cool Britannia à l'époque de New Labour, était aussi une Cool Britannia dans l'Europe.
Sophie Peters, ce qui est frappant, c'est que ce ne sont pas les partis politiques qui mènent la campagne, hein, ce sont des citoyens entre guillemets. Alors évidemment, le UKIP, le parti indépendantiste britannique, est très en pointe, c'est-à-dire on vient entendre un extrait de son clip. Mais de l'autre côté, c'est Britain Stronger in Europe, la Grande-Bretagne est plus forte en Europe, et elle n'est pas menée par David Cameron. Cette campagne, elle est menée par un ancien PDG de la chaîne de magasins Marks & Spencer, ce qui paraît relativement étrange.
Oui, ça peut paraître étrange, mais en même temps que David Cameron, il est pleinement dans la campagne, c'est clair. Il fait des discours, il a fait un discours récemment sur la politique étrangère et l'intérêt du Royaume-Uni de rester pour cette raison-là, pour la sécurité de l'Europe. Et à l'inverse, Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, fait campagne pour quitter. Donc oui, c'est structurellement peut-être la campagne est un peu curieuse, mais vraiment c'est les hommes politiques qui mènent cette campagne, et là il faut vraiment souligner que ceux qui font campagne pour la sortie, ce ne sont pas que des extrémistes. Parfois en France, j'ai l'impression qu'on imagine que c'est un peu comme le Front National ou c'est les nationalistes comme l'UKIP. Ce n'est pas simplement là, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, des ministres actuellement du Parti conservateur et l'ancien maire de Londres. Ce sont des responsables et des personnalités sérieuses.
On va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des derniers développements de l'actualité. A tout de suite.
Autour de la question.
Cruzamento d'Europa.
Раскруча Европей.
Ставродроми της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquel, Victor Ouvrard.
Rebonjour, bonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Le 23 juin, les Britanniques diront si oui ou non ils veulent rester dans l'Union Européenne. Le rendez-vous est historique pour le Royaume-Uni, bien sûr, mais également pour le reste de l'Europe. Alors au-delà de l'intérêt économique et sécuritaire de rester ou pas dans l'Union Européenne, l'interrogation profonde qui anime le débat est celle-ci. La Grande-Bretagne est-elle un pays européen? La question n'a jamais vraiment été tranchée par les sujets de Sa Majesté qui ont rejoint en 1973 l'Union Européenne par pur pragmatisme et sans grand enthousiasme d'ailleurs. En un peu plus de 40 ans, les gouvernements britanniques successifs ont prouvé leur peu d'engouement envers l'Europe. Par exemple, la Grande-Bretagne n'a pas l'euro en partage et elle n'est pas membre de la zone Schengen. Alors que changerait finalement le maintien ou le retrait du Royaume-Uni au sein de l'Union Européenne? Je vous représente les invités qui nous ont rejoints. Sophie Péder, elle est journaliste correspondante à Paris de The Economist. Florence Fauché, professeure de sciences politiques à Sciences Po Paris. Et Yves Bertoncini, directeur de l'Institut Jacques Delors. Alors, l'Europe s'est invitée au Royaume-Uni à la radio, à la télé, dans les réseaux sociaux et même dans les discussions de famille. Il paraît que Sophie Péder ou Florence Fauché, je ne sais pas qui veut rebondir, mais qu'il y a des discussions à n'en plus finir dans les familles. C'est le cas chez vous, par exemple, Sophie Péder?
Pas chez moi, non, parce qu'on est tous très europhiles, mais je connais certains cas absolument où les familles, les couples sont divisés. C'est ça qui rend la prévision très difficile. Les sondages sont très serrés et il y a une minorité assez importante d'indécis. Et je pense que c'est là où ça va jouer. Dans les derniers mois qui restent avant ce référendum, on va voir justement quel est le résultat de tous ces débats entre familles, entre couples, pour essayer de comprendre l'enjeu.
Est-ce qu'il faut s'attendre à une hausse des divorces au lendemain du référendum, après le 23 juin, Sophie Péder?
Bon, j'en sais rien, mais en tous les cas, ça divise le pays et ça divise les familles, c'est vrai.
On va faire un petit détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Jerry Philippe.
Bonjour Daniel.
Tout est bon pour les partisans du Brexit, les arguments économiques forcément, l'exacerbation de la fierté nationale évidemment, le plaisir indicible de se retrouver entre soi bien sûr, mais Julie Burchill a développé dans la revue The Spectator un argument inattendu. L'Union européenne, c'est une union de mecs, forcément macho. Jerry Philippe.
Elle explique qu'il est très difficile de voir l'Union européenne autre chose qu'un grand club privé réservé aux hommes, qui traite l'électorat comme un mari abusif traite sa femme. Voilà son point de vue extrêmement décalé sur le débat. Elle dit, écoutez, les femmes sont généralement jugées moins eurosceptiques que les hommes, mais à son sens, ça ne révèle pas tant leur ouverture d'esprit, mais leur crainte. La campagne contre le Brexit, dit-elle, joue sous nos peurs en invoquant la hausse des dépenses et de l'insécurité. Alors, jour après jour, elle dit, c'est ce qu'on le répète à ce pays petit mais dynamique, tu ne seras rien sans moi, personne d'autre ne voudra de toi, et bien sûr, cette robe te grossit. Voir aussi la comparaison récurrente entre les Anglaises qui sont rondes et fêtards, et les Françaises minces et ennuyeuses. Tout cela, explique Julie Burchill, ressemble à un mariage très malsain.
Et de conclure que l'Union européenne, une institution coincée et dominée par les hommes, eh bien, elle aurait bien besoin d'un coup de pied féministe, sous-entendu évidemment derrière.
Et tout à fait, elle explique, comme nous le savons toutes, on vient à bout d'un mari dangereux ou violent, non pas grâce à la confrontation, mais en le quittant.
Merci Jerry. Dans le Courrier International, l'hebdo, chaque semaine et jusqu'au 23 juin, un point de vue impertinent sur le Brexit dans la rubrique Brexit en débat, et bien sûr toujours le site courrierinternational.com. Tout est bon, hein, décidément, Sophie Péder. Florence Fauché pour les tenants du Brexit.
Oui, absolument. Je pense que c'est un peu ironique de parler, de donner un coup de pied féministe à la Grande-Bretagne compte tenu de l'actualité française de ces derniers jours. Mais néanmoins, je pense que beaucoup de femmes britanniques peuvent penser aux progrès sociaux qui ont été apportés et qui restent encore à apporter en Grande-Bretagne, notamment en termes de congés maternité, d'accès aux écoles pour les plus petits, etc. Donc oui, c'est pas très étonnant que les Britanniques femmes soient légèrement plus favorable à l'Union européenne que les hommes.
Sophie Péder, si je vous pose la question, qu'est-ce que les Britanniques ont apporté à l'Union européenne? La réponse n'est
notre
pas évidente.
Notre fameux pragmatisme, Daniel, que vous connaissez très bien. Non, je pense que là, il faut insurger les autres Européens. Et on entend des voix à la fois allemandes et françaises notamment, qui sont très contentes en fait, d'avoir des Britanniques. Parfois, c'est vrai, ils peuvent se plaindre du fait que les Britanniques sont difficiles. Mais d'abord, c'est le poids militaire et le rôle que joue le Royaume-Uni dans la sécurité. Et les Français sont très contents de travailler avec les Britanniques sur ces questions-là. Mais au sein des questions vraiment européennes, c'est le pragmatisme, un sens de vouloir faire des choses avec moins de bureaucratie, un peu plus d'efficacité. Et ça, c'est apprécié par les grands.
Yves Bertrand-Chigny, la question inverse, qu'est-ce que l'Union européenne a apporté aux Britanniques?
Si on écoute certains Britanniques, ils vous diront surtout des ennuis. Je pense qu'elle leur a apporté ce qu'ils sont venus y chercher, c'est-à-dire la capacité de peser de l'intérieur sur une tentative d'unification continentale qui sinon se serait faite sans eux. C'est très pragmatique, effectivement, parce qu'eux, ils ont d'abord refusé d'entrer dans la construction européenne à ses origines, y compris parce qu'à l'époque, ils faisaient un commerce très important avec le Commonwealth et qu'il aurait fallu rentrer dans l'union douanière, financer la politique agricole commune, etc. etc.
Mais après le refus du général de Gaulle, il faut
oui,
pas l'oublier.
Oui, mais attention, le traité de Rome, c'est 1957, mais dès la création de l'Association européenne de libre-échange, ce que les Britanniques créent en 1960, l'année suivante, ils demandent à rentrer. Et effectivement, pendant 10 ans, le général de Gaulle dit non, parce qu'il ne veut pas faire entrer le loup atlantiste libéral dans la bergerie européenne, ce qui change l'année 70. Ils sont venus donc chercher une position d'influence, et je crois que c'est très important de souligner cela, et que ça va être clé dans le débat, puisqu'on parlait de fierté nationale britannique. À partir du moment où ils ont été à l'intérieur, ils ont pu peser, et beaucoup de Français vous diraient que l'Europe actuelle est trop britannique. Donc il y a une forme de schizophrénie, parce que si les Britanniques trouvent qu'elle est trop française ou trop allemande, et que les Français trouvent qu'elle est trop britannique, il y en a au moins un des deux qui se trompe là, hein, franchement. Simplement, ils ont pesé, y compris, puisqu'on parle des femmes, quand Margaret Thatcher était au pouvoir, elle défendait les intérêts nationaux britanniques à l'intérieur de l'Union européenne. Je pense qu'elle n'aurait jamais songé à quitter la table. Elle n'a pas pratiqué la politique de la chaise vide. Elle n'aurait pas pratiqué la politique de la porte ouverte, parce que c'est ça qu'a fait David Cameron. Depuis plusieurs années, il a pratiqué la politique de la porte ouverte sur le thème « retenez-moi ou je fais un malheur ». Et il a perdu plein d'arbitrages au niveau européen sur la nomination de Juncker, sur l'intégration de la zone euro, etc. Et donc, il y a le sentiment britannique ponctuel, mais ça c'est lié à David Cameron, que les intérêts nationaux supérieurs du pays ne sont peut-être pas défendus suffisamment bien à l'intérieur de l'Union européenne. Mais normalement, le grand dessein britannique, c'est de peser à l'intérieur de l'Union européenne. C'est son intérêt, à mon avis, mais je ne suis pas britannique, je ne voterai pas. Et ça va être un point clé, parce que maintenant, David Cameron explique que nous serions plus forts ensemble, « stronger together ». Le manifeste des Tories dans la campagne disait déjà ça, « stronger together », alors que pour le référendum écossais, c'était « better together », « mieux ensemble ». Il y avait une dimension plus de bonheur là-dedans. Là, c'est très pragmatique, nous sommes plus forts. Si les Britanniques, je crois, regardent l'Europe aujourd'hui, ils voient l'Europe comme le Titanic. Évidemment, ils peuvent se dire « on va peut-être descendre du Titanic, l'image de l'Union européenne n'est pas fameuse ». Mais s'ils regardent les icebergs, s'ils regardent la mer démontée, et s'ils se disent qu'en ayant pris la chaloupe, ils vont mieux affronter les icebergs que sont le terrorisme islamique, Vladimir Poutine qui est très agressif, la finance folle, etc., etc., ça veut dire qu'ils auront plus qu'une grande fierté nationale, je pense. Ça veut dire qu'ils présumeront sans doute un peu de leur force, mais ça va être à eux d'en décider. Ce qui est sûr pour moi, c'est que si le référendum se focalise sur l'image du Titanic européen, ça peut donner envie d'en partir. Si le référendum se focalise davantage sur les icebergs qui entourent l'Union européenne et qui entoureront le Royaume-Uni de toute façon, alors à ce moment-là, il y a peut-être davantage le réflexe, il faut quand même rester à bord du bateau, qui après tout n'est peut-être pas tant le Titanic qu'il en a l'air, et qu'à l'intérieur de ce bateau, en tenant la barre, en défendant les intérêts nationaux britanniques, alors on fera un choix à la fois nationaliste et européen de raison, si je puis dire.
Alors, on a expliqué que une des questions était de savoir si la Grande-Bretagne était européenne ou pas. La deuxième question, c'est que pose ce référendum, c'est est-ce que finalement le Brexit a déjà pénalisé l'économie britannique et est-ce que l'économie britannique sera plus forte dedans ou dehors? Qui veut rebondir? Sophie Bellas, The Economist?
D'abord, oui, ça a déjà pénalisé l'économie britannique parce que la devise sterling, elle a déjà tombé en anticipation quand les sondages ont suggéré que la sortie sera le résultat. Mais je pense qu'on a vu récemment, ces dernières semaines, une accumulation de rapports très sérieux par toutes sortes d'organismes, y compris le CDE, le FMI, la Banque d'Angleterre, le Trésor britannique, et à chaque fois, il n'y a qu'une seule prévision, c'est que ça va nuire à l'économie britannique. La question, c'est de savoir à quel point.
À quel niveau
exactement. Il n'y a pas une étude sérieuse qui suggère que l'économie va s'améliorer. Mais curieusement, je pense que quand je regarde cette campagne, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est pas une question rationnelle pour les Britanniques jusqu'à là dans cette campagne. C'est une question beaucoup plus émotionnelle qu'on a évoqué tout à l'heure, question d'identité, de souveraineté, l'idée de retrouver le contrôle. C'est des slogans, mais c'est des sentiments et c'est des questions émotionnelles. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'arriver avec un tas de rapports économiques et de démontrer des courbes et des chiffres, parce que ce n'est pas comme ça que les Britanniques, à mon sens, jusqu'à ce moment, conçoivent le choix.
Florence aussi, il y a notamment ce rapport qu'a sorti le ministère des Finances et qui explique que le Brexit approuverait les Britanniques environ de 5 500 €, j'ai fait la réduction, par an et par foyer, mais ça a été très mal pris par les tenants du Brexit. Hein.
Bien sûr, on peut comprendre pourquoi. Mais je pense que ce qui est très important là-dessus, c'est qu'effectivement c'est une question qui est plus émotionnelle que nécessairement rationnelle, et en grande partie parce que les Britanniques sont finalement ceux qui, en Europe, connaissent le moins l'Europe. Parce que depuis qu'ils sont rentrés, comme la plupart des gouvernements, mais plus que la plupart des gouvernements européens, l'Union européenne est le bouc émissaire. Quand on veut faire adopter une politique, une législation qu'on ne souhaite pas endosser, on accuse l'Europe. Et également dans les programmes d'éducation, la dimension politique et en particulier l'Europe est très très présente. Donc finalement, cette méconnaissance de l'Europe, qui d'ailleurs est très frappante et qui a joué en septembre dernier, quand il y a eu la question sur comment encadrer les débats sur le référendum et le rôle du gouvernement dans les référendums, dans le référendum et dans la campagne, la question était: qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Europe, qu'est-ce que le gouvernement peut dire qui soit sur les bienfaits de l'Europe que la population ne connaît pas, qui ne soit pas de la propagande contre lesquels les Brexiteers voulaient s'opposer. Donc je pense que vraiment, de ce côté-là, la question est émotionnelle, mais c'est une question de connaissance, de déficit de connaissance, qui explique que les populations plus âgées, qui peut-être n'ont pas non plus les moyens, puisque c'est souvent aussi une question des différences sociales qui sont très importantes quand on regarde ceux qui sont en faveur du retrait de l'Europe, ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller passer leur retraite ou de longs mois de vacances, qui n'ont pas acheté de maison de campagne en Dordogne ou en Espagne. Ceux-là sont pour le départ.
Sur ces questions de méconnaissance, c'est encore pire que ça. Je suis d'accord qu'il y a une méconnaissance, mais c'est pire parce qu'il y a des mensonges qui sont dans la presse eurosceptique britannique et qui sont reprises exprès par ceux qui font campagne, y compris Boris Johnson, pour dire que Bruxelles va interdire, je ne sais pas, les bouloirs ou des choses assez extraordinaires. Mais vu d'ici en France, on imagine que c'est absurde, c'est des fantasmes. Mais une grande partie de ceux qui souhaitent le Brexit, ils croient que c'est vrai, que c'est la vérité, que Bruxelles va interdire, je ne sais pas, des camions, de certains vélos, de certains équipements de cuisine.
En deux mots, Bruxelles, c'est pire que Moscou au temps de Staline.
Je crois que c'est très important de rappeler effectivement que l'Union européenne n'est pas l'Union soviétique, que ce n'est pas une prison. Et la meilleure preuve, c'est que si les Britanniques, à l'issue d'un choix démocratique, veulent en sortir, ils en sortiront. Donc c'est un démenti à ceux qui expliquent que Bruxelles est l'Union soviétique, y compris au Royaume-Uni, parce que si c'était vraiment l'Union soviétique, on n'en sortirait pas. Le divorce est donc possible. Et c'est là où on retombe sur la dimension émotionnelle. Moi, je crois tout à fait que, comme dans un divorce, évidemment que les considérations matérielles peuvent jouer, les chiffres, les rapports, ça peut jouer. Je pense que tous les gens qui divorcent se doutent bien que ça ne va pas être une bonne affaire financière, au moins à court terme, avant qu'ils refassent peut-être leur vie différemment. Mais ce n'est pas ça qui va les empêcher de divorcer. Il y en a qui divorcent, il y a beaucoup de gens qui divorcent. Bon. Et donc si les Britanniques divorcent, c'est peut-être davantage lié à des considérations émotionnelles, à un malaise dans les relations. Ils peuvent ne pas divorcer parce que c'est un mariage d'intérêt depuis le début, et donc les mariages d'intérêt, dit-on, c'est ceux qui durent le plus longtemps, et si c'est sur le registre d'intérêt, moi je crois qu'ils ne divorceront pas. Ils peuvent ne pas divorcer aussi parce que c'est le saut dans l'inconnu, la peur de l'inconnu. Et c'est vrai qu'au-delà des mois précédents, là, il y a une seule chose qui est certaine, c'est que ça va créer beaucoup d'incertitudes. Un vote pour la sortie va créer au moins 2 ans d'incertitude supplémentaire. Il va falloir renégocier la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Simplement, moi, je crois qu'une fois qu'on a dit ça, dans cette configuration, dans cette métaphore conjugale, il faut aller au bout du sujet. Je crois que ça va être la clé qui consiste à savoir si Bruxelles gouverne le Royaume-Uni, parce qu'au fond, c'est ça. Et Boris Johnson, qui était un ancien correspondant de la presse à Bruxelles, regorge d'anecdotes sur la taille des concombres, etc. Je crois qu'il faut aller là, et on revient à la fierté nationaliste. C'est risible, vu de l'extérieur. Cette assertion est risible. Non pas seulement parce que les chiffres montrent bien que toutes les lois viennent pas de Bruxelles. Nous-mêmes, on a publié des choses assez documentées là-dessus. Il y a 10, 15, 20% des lois qui viennent de Bruxelles, pas davantage. Et d'ailleurs, les Britanniques pèsent sur le contenu de ces lois. Mais c'est pas Bruxelles qui gouverne un pays qui est effectivement à la livre avec la reine dessus.
Qui n'est pas dans Schengen,
sauf pour ce qui l'arrange, c'est-à-dire la coopération policière et judiciaire, parce qu'effectivement c'est efficace pour attraper les terroristes notamment. Un pays où les gens roulent à gauche, un pays qui mange des fish and chips, qui va au pub, qui regarde la première ligne. Enfin, c'est risible de penser que Schengen gouverne ce pays. Mais pourtant, effectivement, ça marche. Alors pourquoi ça marche ? À mon avis, parce qu'effectivement, il y a plein d'anecdotes sur les normes bruxelloises, et pas qu'au Royaume-Uni, hein, en France, la taille des concombres, les cages à poules, etc. Il y a peut-être effectivement trop de normes réglementaires tatillonnent de Bruxelles.
Là-dessus, tout le monde est d'accord sur l'aspect un peu trop réglementaire de la Commission européenne.
Oui, ceci dit, si la Commission européenne fait ça, c'est pour permettre la libre circulation des produits, la normalisation, la libre circulation des produits dans une optique libérale qui, normalement, plaît aux Britanniques.
Sophie Bédère.
Non, je pense que là, à chaque fois, que ce qui plaide pour le maintien essaie de canaliser le débat vers des sujets un peu rationnels, documentés, chiffrés, factuels. Le camp inverse saisit de toutes ces fantasmes, parce que c'est ça, ils vont pas entrer dans le factuel.
Il y a la rationalité d'un côté, des fantasmes de l'autre.
Le fantasme et la peur et je pense que malheureusement c'est vraiment ces questions-là, questions d'identité, de l'idée de contrôle, de souveraineté, qui vont jouer et qui seront plus importants que est-ce que ça nous aide ou pas les normes environnementales européennes.
François Gé.
Là-dessus, il faut considérer le rôle de la presse et en particulier du fait que finalement il n'y a que deux journaux qui sont ouvertement pro-européens, le Guardian et l'Independent, la presse populaire.
L'Independent n'existant plus que sur Internet.
et The Economist.
Oui.
Et The Financial Times.
Oui, oui, mais si on regarde la presse quotidienne, ce que j'allais dire, c'est que les journaux populaires qui précisément alimentent les peurs, les discours sur l'Europe bureaucratique, le Mail, le Sun, ceux qui ont un véritable readership, une très vaste audience, sont anti-européens. La question d'ailleurs est de savoir comment est-ce que la presse Murdoch, avec des magnats de la presse qui préfèrent évidemment avoir une Grande-Bretagne à l'extérieur de l'Union européenne parce qu'ils peuvent peser également sur les régulations qui leur sont imposées. C'était un argument qui avait été utilisé il y a quelques années. L'Europe est beaucoup plus rétive à une influence de Murdoch. Pour donner un exemple.
Qui d'ailleurs vit toujours en Australie ou pas, Robert Murdoch, ou je sais pas qui c'est. C'est un.
Non, je pense qu'il est aux États-Unis, là.
Aux États-Unis, d'accord. Enfin, des États-Unis, il influence tout de même la vie britannique.
Mais ça va au-delà de la presse. La presse, c'est vrai, ça joue un rôle incroyablement important, la presse populaire. Mais
il faut rappeler, si on se compare à la France, les tirages encore phénoménaux de la presse populaire, de Sun, de
Daily Mirror. Ah oui, on est dans les millions.
On est dans les millions. Alors qu'on est en 100 000, 200 000 en France. Ça n'a rien à voir.
Mais au-delà de ça, c'est la même tonalité qu'on retrouve dans la presse tabloïde et populaire. On trouve dans la campagne de Boris Johnson, par exemple. Lui, c'est parce qu'il incarne presque la presse populaire. Il était correspondante pour le Daily Telegraph, mais qui est un journal extrêmement eurosceptique, europhobe. Et là, toute la tonalité de ses discours, de ses gimmicks de campagne, il arrive dans un bus, il a le fameux concombre à la main pour montrer que l'Europe nous impose des normes. Et il joue avec son sens d'humour, il imagine, je suppose, mais il joue avec justement la même peur et que les tabloïds qui sont exprimés par les tabloïds britanniques. Et c'est très puissant.
Alors évidemment, on va y revenir au lendemain de ce 23 juin fatidique. Quelles conséquences pour l'Union européenne ? Est-ce que le Brexit, s'il avait lieu, ce serait une catastrophe ou une délivrance pour l'Union européenne ?
Alors, ceux qui pensent que justement le Royaume-Uni a apporté notamment trop de libéralisme ou trop d'atlantisme dans l'Union européenne seront soulagés du départ du Royaume-Uni. D'une certaine manière, ça sera une clarification, d'ailleurs dans les deux sens, hein, même s'il reste, je parlais de psychanalyse tout à l'heure, ce référendum est cathartique d'une certaine manière. Il a été promis d'ailleurs, pour d'autres raisons avant, par Tony Blair et David Cameron, si on peut lui reconnaître un mérite, c'est de reconsulter son peuple pour clarifier une bonne fois pour toutes les choses. En cas de sortie, donc, d'abord c'est 2 ans d'incertitude, puisqu'il faut tout négocier. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une amputation d'un membre important de l'Union européenne. Un membre supérieur, je vais le dire pour faire plaisir aux Britanniques, ça veut dire un bras. Mais pas les jambes. Les jambes, c'est la France et l'Allemagne. Donc l'Union européenne continuera à marcher. Simplement, puisqu'elle va perdre un bras, et elle va avoir moins de prise sur la réalité. Et c'est bien dommage, parce que cette réalité...
Ce serait bien dommage, c'est pas encore fait.
Ces icebergs que je décrivais tout à l'heure, en effet, ce serait bien dommage, parce que quand on regarde les grands défis que doivent affronter les Européens, fût-il sur une île, les grands défis comme le changement climatique, le terrorisme islamiste, l'agressivité russe, l'instabilité de la Libye, l'afflux migratoire massif qu'il faut mieux gérer, etc. Tout ça, c'est quelque chose qu'il faut faire en étant plus fort ensemble, stronger together. Mais encore une fois, maintenant, la balle est dans le camp des Britanniques, du peuple britannique, dans une campagne où effectivement il y a à la fois des approximations, des arrière-pensées naturellement, des grands hommes d'affaires, mais aussi des responsables politiques comme Boris Johnson, qui rêve d'être le Brutus hein, de David Cameron, qui évidemment, en cas de victoire de la sortie, voudra pousser M. Cameron vers la porte, pour le coup. Et donc là, on est entré dans une période référendaire extrêmement incertaine, et donc les Européens, qu'ils souhaitent ou non le départ des Britanniques, bah, il faut qu'ils leur reconnaissent cette souveraineté-là, à savoir que c'est eux qui vont en décider.
Florence Rocher, l'Europe sortira forcément affaiblie de cette épreuve ?
L'Europe sortira avec des négociations certainement difficiles à avoir avec le Royaume-Uni, sachant que le départ du Royaume-Uni et les concessions qui peuvent être faites pour les conditions du départ peuvent donner des idées à d'autres groupes eurosceptiques. Cameron pourrait finalement, en ayant essayé de se protéger et de protéger sa place face à son aile eurosceptique, peut être le Premier ministre qui conduit la Grande-Bretagne hors de l'Union, mais qui aussi détruit le Royaume-Uni. C'est quand même pas mal pour un parti conservateur et unioniste.
Sophie Peder, attention, danger dans tous les cas de figure.
Oui, je pense, sincèrement, je pense qu'il y a trop d'incertitudes, le risque est immense et ça sera... Il y aura même, au-delà des risques déjà évoqués là, par exemple en France, est-ce que ça sera pour Marine Le Pen l'occasion de demander un référendum en France avec plus de crédibilité? Pourquoi les Français n'ont pas le droit d'avoir le même choix que les Britanniques? Et il y aura des conséquences dans d'autres pays sur le plan de leur politique intérieure également, pas simplement la fonction de l'Union européenne. Donc je pense que rationnellement, la conclusion rationnelle, c'est que mieux de rester.
Mieux de rester, mais évidemment, on aura la réponse le 23 juin. D'ailleurs, peut-être pas le 23, peut-être le 24 ou le 25. Donc il faut un peu de temps pour le dépouillement.
La dernière fois qu'on a eu un référendum sur l'Europe, c'était en 75. Donc, on est loin d'avoir beaucoup de précédents pour savoir à quelle heure dans la journée on aura le résultat.
On était peu informatisés à cette époque. Yves Bertoncini, peut-être le mot de la fin.
Vous aurez peut-être noté que les Britanniques ont convoqué ce référendum un jour qui devait être le jour d'un Conseil européen, ce qui prouve bien qu'ils sont vraiment parfaitement souverains dans leur choix. Il a fallu donc déplacer le Conseil européen, qui normalement se tient toujours le jeudi, vendredi, au lundi, mardi. Et bien effectivement, je crois que les dirigeants européens auront donc le week-end pour attendre, examiner les conséquences du choix démocratique des Britanniques. Je crois que la plupart des dirigeants européens souhaitent d'abord que les Britanniques restent pour des raisons européennes et internationales et qu'effectivement, si en plus ils restaient, ça pourrait être utile du point de vue domestique pour ces dirigeants, parce que ça montrerait que même quand on a un peuple qui n'aime pas l'Europe, mais il ne la quitte pas forcément. Ce n'est pas tu l'aimes ou tu la quittes. Le Royaume-Uni, c'est un peuple où il y a une conjonction à un niveau très élevé d'euroscepticisme traditionnel, mais aussi d'europhobie. L'europhobie, ça fait prendre la porte. L'euroscepticisme est d'humeur, l'europhobie est de volonté. On peut ne pas aimer l'Europe sans la quitter pour autant, sans voter pour la quitter pour autant. Je crois que ça va être très utile de savoir ce que va faire ce peuple-là, qui est vraiment le peuple le plus border edge, si vous me permettez cette ultime expression britannique. et que ça aura effectivement des répercussions, non pas seulement au niveau géopolitique, mais au niveau de la politique nationale dans les 27 autres pays.
Mais si les Britanniques partent, l'Europe continuera forcément.
Absolument, with all due respect pour nos amis britanniques, le continent continuera à s'organiser sans eux, ce qui ne sera pas forcément d'ailleurs bon pour eux, mais enfin c'est à eux de
l'organiser. Ce qui ne sera pas facile dans tous les cas de figure.
Ça n'aura jamais été facile, l'Union européenne est un combat. Et d'ailleurs, si vous permettez un dernier point, souvent on s'abrite trop derrière les Britanniques en disant qu'on ne peut pas avancer à cause d'eux. S'ils partaient, on n'aurait plus cette excuse. Et s'ils décidaient de rester, bah peut-être qu'avec, en ayant soldé, j'allais dire, cette querelle, eh bien, ils pourraient repartir de l'avant dans l'intégration européenne. Vous voyez, je suis optimiste pour conclure. Comme Margaret Thatcher l'avait fait au moment où elle a soldé la querelle du chèque britannique dans les années 80. Et après ça, elle s'est engagée avec Jacques Delors et d'autres, hein, François Mitterrand et Helmut Kohl, dans la réalisation d'un grand marché unique.
Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe, réalisation Victor Ouvrard. Pour retrouver le podcast de cette émission, RFI.fr ou les applis mobiles mais gratuites de RFI, sur la page internet de Carrefour de l'Europe, des infos sur nos invités. On reste en contact, bien sûr, via Facebook et Twitter, Daniel Desesquelles, où que vous soyez, à Londres, à Paris, en Europe ou dans le reste du monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.
$7 milliards.